Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 69 avec Guillaume Declercq.
Et ce qui explique que j'ai, je pense, tous ces projets, c'est peut-être la façon dont je les aborde. En fait, avant de commencer chacun d'entre eux, en fait, je me pose une question assez simple. Je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Et souvent, en fait, quand on fait vraiment l'exercice, on se rend compte que bah, y a rien de si grave qui peut arriver et qu'on trouvera toujours en fait une manière de rebondir.
Dans cet épisode, je reçois Guillaume Declercq, un serial entrepreneur qui a décidé de casser le mythe de la productivité pour présenter une vision plus réaliste de son quotidien. À seulement 35 ans, il a déjà lancé 3 business qui cartonnent, a coécrit un livre devenu best-seller, anime des conférences pour de grandes entreprises et cerise sur le gâteau, il est récemment devenu papa d'une petite fille. Toutes ces expériences l'ont poussé à revoir son organisation pour trouver un équilibre entre vie pro et vie perso. Et pour lui, la clé du succès, c'est d'apprendre à devenir paresseux. Vous allez découvrir que le simple fait d'être productif ne sert strictement à rien, que les temps de loisirs sont tout aussi importants que les temps de travail, que les entrepreneurs qui cartonnent ne sont pas forcément ceux qui en font le plus, et plein d'autres choses passionnantes qui vont révolutionner votre façon de travailler. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Guillaume Declercq. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Une excellente étude menée pour le Harvard Business Review démontre que le manque de temps est devenu la plus grande source de stress et d'anxiété dans notre société aujourd'hui. La situation est si grave qu'on peut même parler de famine. Apprendre à prioriser son temps est donc devenu indispensable. Mon invité d'aujourd'hui a bien compris cette problématique et s'est lancé dans une étude auprès de 300 startups à succès pour découvrir leurs secrets de productivité. Suite à cette enquête, il choisit de s'enfermer dans une maison pendant 3 jours avec ses 2 acolytes, Baudine et Jérôme Dumont, et il en sort un livre devenu best-seller, La 25e heure ou Comment gagner une heure par jour. Co-fondateur de Merci Alfred, Hook et Loom, ce serial entrepreneur se lance sans cesse de nouveaux challenges et connaît beaucoup de succès dans tous ses projets, tout en ayant une approche différente du travail, de la productivité et de la gestion du temps. Il semblerait que l'avenir appartient à ceux qui travaillent moins. C'est dans le plus grand campus de start-up au monde, fondé par Xavier Niel, Station F, qu'il me reçoit aujourd'hui pour répondre à mes questions. Guillaume Declercq, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci, c'est un honneur.
Alors pour commencer, Guillaume, vous savez, je pose toujours la même question pour commencer toutes mes interviews. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ?
Alors pourquoi ? Dans mon parcours, je dirais que ce qui est peut-être un peu original, c'est que ouais, une certaine forme de prise de risque, parce que j'ai pas mal de projets entrepreneuriaux. Et ce qui explique que j'ai, je pense, tous ces projets, c'est peut-être la façon dont je les aborde. En fait, avant de commencer chacun d'entre eux, en fait, je me pose une question assez simple. Je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ?
Ah, intéressant.
Et souvent, en fait, quand on fait vraiment l'exercice, on se rend compte que bah, y a rien de si grave qui peut arriver et qu'on trouvera toujours en fait, une manière de rebondir. Au final, bah, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Par exemple, dans l'écriture du livre, ça a été le cas.
Mais c'est quoi alors exactement votre pourquoi, votre why, la raison pour laquelle vous réveillez chaque matin en vous disant « Ok, je suis super content de faire ce que je fais aujourd'hui
bah, ». Ce qui relie un peu tous les projets que j'ai pu avoir, depuis Merci Alfred jusqu'au livre, jusqu'à Loom, c'est un peu cette envie de partager peut-être ma philosophie, qui est une philosophie au global, je dirais, bah, de moins mais mieux. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'ajouter, de complexifier, c'est plus dur d'enlever. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont le monde a besoin.
Ouais, c'est la philosophie « less is more ».
Exactement.
Minimaliste.
Exactement, minimaliste. Et je pense que si aujourd'hui, cette philosophie a autant de succès, c'est qu'il y a vraiment une raison fondamentale, c'est qu'on allait trop fort dans un sort et qu'aujourd'hui, il faut en revenir.
Ouais, je suis totalement d'accord en tout cas avec cette philosophie. Et comme je l'ai dit dans la présentation, vous me recevez ici à Station F. D'ailleurs, je vous remercie pour cet accueil. Alors, qu'est-ce que vous faites ici exactement ?
Ici, je développe une entreprise qui s'appelle Loom. Loom, c'est une entreprise de mode responsable. Et nous, on a la particularité d'avoir construit une marque avec mon associé Julia qui est assez... une marque assez militante parce qu'on pense qu'aujourd'hui, Il y a urgence à changer la façon dont on achète des vêtements, dont on consomme. Il y a plein de chiffres qui sont très inquiétants. Et le problème fondamental aujourd'hui sur l'industrie textile, c'est la surproduction, la surconsommation. C'est-à-dire qu'on va toujours nous parler de problèmes un peu périphériques, mais parce que les grosses marques de fast fashion n'ont aucun intérêt à parler du vrai problème fondamental. Mais nous, ouais, c'est quelque chose qu'on dénonce un peu et on dit qu'il faut juste changer vraiment notre façon de consommer. Donc nous, en gros, Loom, voilà, on veut grandir, prendre des parts de marché pour faire diminuer la taille du marché.
Et vous êtes installé ici à Station F pour pouvoir développer ce projet.
Exactement, exactement. Donc Station F, c'est un super outil hein, pour nous.
Ouais, j'imagine. C'est quoi justement les côtés bénéfiques, les bons côtés d'être ici ?
Côté bénéfique, c'est être au milieu d'un écosystème d'entrepreneurs qui ont des projets ou similaires ou éloignés, où il y a toujours des ponts qu'on peut créer. Ça donne aussi, quand on commence un projet, parfois une certaine légitimité d'être associé à un gros nom comme
ça. C'est vrai. Dès qu'on entend Station F, ça fait un peu plus sérieux.
Exactement. Ça nous aide pas mal avec les partenaires. On invite souvent nos fournisseurs de textiles nous voir à Station F quand ils passent à Paris. Et c'est un petit plus qui peut faire la différence aussi. Ouais. Quand on veut travailler avec les meilleurs aussi, il faut se vendre.
Bon, avant Station F, vous avez fait pas mal de choses, mm-hmm. notamment une école de commerce, l'ESSEC. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas ?
C'est un vrai sujet. Du coup, les études supérieures à l'école de commerce, on apprend des choses techniques, bien sûr, qui sont forcément utiles, mais honnêtement, donc qu'on pourrait apprendre aussi largement au fil de l'eau,
sur le terrain.
Voilà, en micro-learning ou même oui, en se formant tout simplement. Aujourd'hui, on peut se former n'importe où.
YouTube
ou Internet peut répondre à n'importe quelle de nos questions.
Donc, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça vous a vraiment permis Est-ce que ça vous a apporté en fait des choses positives pour votre business ?
Honnêtement, ce qui est être assis dans une salle de classe en cours, non, je pense que ça apporte pas grand-chose.
Ouais, on est d'accord.
Ce que ça a apporté, je vais pas dire un réseau, dans le sens où on connaît des gens qui vont nous trouver des postes à droite et à gauche, mais un réseau, en tout cas, de personnes, en tout cas du temps d'exposition à des personnes potentiellement vraiment intéressantes et qui peuvent nous faire prendre des perspectives différentes, nous aider à nous développer. Donc c'est plus ça, en fait. C'est plus que... Disons qu'il y a un filtre. Il y a un filtre à l'entrée qui potentiellement peut nous aider à grandir plus facilement. Après, en tant que tel, j'ai pas appris grand-chose.
Si vous pouviez revenir dans le passé, est-ce que vous referiez une école de commerce ou pas ? En toute franchise ?
Je pense pas forcément. Alors après, c'est une décision très courageuse, très dure à prendre. Ouais. Parce que quand on a la possibilité de le faire, aujourd'hui, ça demande... c'est beaucoup plus facile de faire une école de commerce que de pas en faire.
Ouais. Hein. Et vous feriez quoi alors à la place ?
Ce que j'ai fait, hein, de toute façon, c'est une banalité énorme de dire ça, mais c'est vraiment en faisant qu'on apprend. Et donc oui, peut-être que j'aurais lancé des projets plus tôt, peut-être que j'aurais monté d'autres projets, je sais pas.
Alors vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur puisque vous avez lancé différents business. D'abord Merci Alfred, un média digital lifestyle pour hommes, puis Hook, une application mobile pour référencer les meilleurs bons plans en France, et plus récemment Loom, une marque de vêtements éthique. En plus de tout ça, donc vous trouvez le temps d'écrire un livre, La 25e heure, qui est aujourd'hui un best-seller hein, puisqu'il s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et dans ce livre, vous partagez plein de conseils pour améliorer sa productivité. C'est un livre que vous avez écrit à 6 mains avec Baudi et Jérôme Dumont. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre au départ ?
Moi, je parlais un peu de mon histoire personnelle au départ, où j'ai travaillé beaucoup, mais je me suis rendu compte qu'on s'est rendu compte avec les co-auteurs qu'autour de nous, il y avait énormément de gens qui travaillaient beaucoup, beaucoup.
Parce que c'est quelque chose de bien vu, travailler beaucoup.
Bah exactement. Hein. Aujourd'hui, ça fait partie... ça fait presque partie des choses qu'on revendique. Hein, dire « je suis sous l'eau », c'est quelque chose qui est bien.
On s'en vante même dans les entreprises.
Exactement.
Il y a l'expression, exactement. Vous savez, « work hard, play hard ».
Voilà.
Je dis souvent que les gens, ils laissent tomber le « play hard », en fait.
Souvent, hein, oui. « Work hard, play hard », j'ai du mal à y croire aussi.
Ouais.
Je trouve que c'est... Là, on marche un peu sur la tête, puisque ça nous emmène aujourd'hui, ou ça emmène plein de gens au burn-out, hein, qui est devenu presque un mot du langage quotidien aujourd'hui, ce qui est incroyable. Et le paradoxe qui nous a amené aussi à écrire ce livre, c'est que si vous regardez la productivité, en fait. Alors, il y a la productivité industrielle, si vous voulez, celle qui est permise par les machines, qui a énormément augmenté et qui a en effet permis une forme de diminution du temps de travail, on va dire d'une population plutôt col bleu, qui travaillait peut-être jusqu'à 100 heures au 19e siècle et aujourd'hui on travaille 35. Alors, je ne dis pas que c'est un métier facile, mais en tout cas, la hausse de la productivité industrielle a eu un impact sur eux. Et nous, aujourd'hui, ce qui est hallucinant, c'est qu'on regarde qu'est-ce qui nous entoure, on a de plus en plus d'outils, que ce soit nos téléphones et nos ordinateurs, et pourtant, ce qui se passe, c'est l'effet contraire. Si on regarde la population de cadres, le temps de travail, lui, il a augmenté de plus d'une heure sur ces 10 dernières années.
Ah, vous dites d'ailleurs que les cols bleus sont devenus les cols blancs. Les cols bleus, c'était les ouvriers, les cols blancs, c'est les entrepreneurs, les businessmen, les salariés, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est intéressant, c'est un peu une inversion. Aujourd'hui, on est de la même façon qu'il y a des ouvriers du 19e qui étaient aliénés par leurs machines, nous, on est aliénés par les nôtres.
Totalement.
Et donc, on est un peu bloqués, et du coup... Non, l'idée, c'était de prendre notre conviction profonde, c'est que... de la même façon que je suis jeune papa, j'ai appris petit à petit à éduquer ma fille, j'ai appris au contact des gens, en lisant des livres, et pourtant, personne, en ce qui concerne le travail, vraiment nous apprend à travailler. Typiquement, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école.
Ouais. Ouais. Ça, c'est mon cheval de bataille en plus. Je le répète très souvent, il faut apprendre aux étudiants dès le plus jeune âge, en fait. Aux élèves même en primaire, au collège, de commencer très jeune, parce que c'est vraiment travailler.
C'est hallucinant aujourd'hui.
Surtout dans notre monde aujourd'hui, je veux dire.
Mais c'est impératif. Alors nous, on a ces marrants, certaines écoles qui aujourd'hui nous écrivent pour que éventuellement on monte des cours autour
super.
De ce sujet-là. Ça serait super. Voilà.
Enfin, entre écrire et mettre en place, en France, il y a un gap. C'est-à-dire qu'il y a 5-10 ans de discussion et d'échange par mail.
En tout cas, il y a une prise de conscience. C'est qu'en effet, maintenant, on a plein d'outils qui nous poussent à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Du coup, il faut apprendre à les maîtriser.
Ouais.
Donc c'est bien, mais nous, notre conviction, c'est qu'on peut tout simplement apprendre à travailler. Il suffit, c'est juste une question de méthode. Alors, rien ne se fera du jour au lendemain. C'est des années de travail, c'est plus un état d'esprit qu'il faut avoir, apprendre à changer. Et l'objectif, c'est dire tous ces gains d'efficacité que j'ai, il faut s'en servir, non pas pour faire plus, mais pour faire moins.
Alors vous avez changé votre manière de travailler. Hein. Mm-hmm. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel changement vous avez apporté dans votre quotidien?
Un des premiers conseils qu'on nous a donné qui revient le plus, c'est l'impératif de dire non.
L'art de dire non.
Voilà, les gens ne disent pas non pour plein de raisons. Hein. Ils ont peur de vexer leur interlocuteur. Ils disent souvent oui, tout simplement, parce qu'ils ne connaissent pas leurs objectifs. Hein. Au final, si on ne dit pas assez non, on va faire des choses qui ne sont pas intéressantes et surtout, des choses qui sont pas des choses que nous devons faire, mais que les autres vous imposent de faire. Et faire ce que les autres vous imposent de faire, c'est pas votre objectif. Aujourd'hui, votre boîte mail, on peut la voir comme une sorte de to-do list géante dans laquelle le monde entier peut mettre quelque chose. Donc, il faut vraiment s'en protéger.
Et de toute façon, dire non, ça fait de vous quelqu'un qui maîtrise ses journées et ses décisions. Et finalement, on respecte les gens qui ont cette capacité-là à prendre des décisions et à dire non.
Bien sûr, on ne perd jamais rien à dire non, et même à son boss, ce qui est souvent une remarque que les gens nous font. Mais moi, mon boss me dit si je ne peux pas lui dire non. Si, a priori, vous pouvez lui dire non, ou en tout cas, s'il refuse, c'est que ce n'est pas un bon boss et que vous pouvez partir.
Alors moi, c'est ce que je conseille justement dans les workshops que je fais à destination de beaucoup d'entrepreneurs et de freelance. C'est en fait de dire non, d'expliquer, et puis de proposer une solution. Une solution alternative, qui nous convient mieux, mais du coup, y a un terrain d'entente. Parce que dire non comme ça, brut, vous avez raison, c'est pas du tout productif, c'est pas proactif, on n'avance pas. Alors que si on propose une solution, là, c'est différent. La personne en face, en général, elle peut pas dire non, puisque de toute façon, il y a une solution.
Exactement. En effet, c'est quelque chose dont on parle aussi dans le livre, en effet. Aide force de proposition, même si la proposition n'est pas la plus pertinente, au moins il y a un effort qui fait que l'interlocuteur est obligé de nous respecter.
Et en parlant d'apprendre à dire non, vous dites qu'il faut décliner au moins 20% des réunions. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec cette idée, Guillaume, soyons clairs. Mais il faut dire que faire des réunions, j'ai quand même l'impression que c'est l'activité favorite des Français dans les entreprises. Donc, comment on s'y prend?
Je trouve qu'il faut avoir une loi intéressante en tête qui s'appelle la loi de Parkinson. Et la loi de Parkinson, c'est une loi qui était au départ valable dans l'administration publique anglaise, je crois, et qui disait que le temps de travail, petit à petit, s'étalait jusqu'à occuper tout le temps qui lui était alloué. Donc, forcément, si vous faites des réunions, de nombreuses réunions, et des réunions longues, vous allez toujours trouver quelque chose à y faire. Donc la première chose, c'est que n'importe qui peut déjà diviser par deux son temps de réunion. On peut prendre le temps par défaut qui est une heure, on peut mettre une demi-heure, et puis on peut largement réduire aussi réduire le nombre de ces réunions. Il y a plein de choses qui ne doivent pas être faites en réunion.
Non, mais vous savez quoi, Guillaume, quand j'étais en entreprise, quand j'étais salarié, parfois, il m'arrivait de participer à des réunions qui duraient plus d'une heure, deux heures. Moi, je ne pouvais plus, en fait.
Ouais.
Et souvent, je partais. Je leur disais, mais moi, en fait, j'ai d'autres choses à faire et je ne peux pas rester deux heures à écouter tout le monde parler. Ça n'a aucun intérêt. Et je me suis rendu compte que finalement, il n'y a rien de productif qui sort de tout ça. On fait des réunions pour parler, pour échanger, pour montrer que voilà, on a fait telle chose ou telle chose. C'est juste pour se montrer.
Exactement.
Dans le fond, il n'y a pas vraiment d'avancée. Et ça rend dingue. Franchement, ouais. Ça rend dingue.
Exactement. Alors que, et c'est terrible d'avoir ce sentiment-là que vous partagez en réunion, parce que justement, la réunion, quand même, étymologiquement, hein, c'est le fait qu'on doit tous être ensemble, et ça doit être un moment positif, ça doit être un moment de partage. Donc, il faut d'autant plus réduire ce temps de réunion qu'on a envie que ça soit un moment ensemble, un moment, presque un moment de célébration, où on partage quelque chose, où on réfléchit, où on brainstorm, où il se passe vraiment quelque chose. Donc ouais, il y a une urgence à faire. C'est pas normal que les gens se sentent mal en réunion.
Bah déjà, il faut diminuer le nombre de participants, on est d'accord. Hein.
Totalement.
Il y a la loi de la pizza, vous en parlez ça dans le livre.
Ouais, la pizza, alors que beaucoup d'entrepreneurs nous ont sorti parce que Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a eu une phrase célèbre, hein, c'était il faut que dans une salle de réunion, on puisse nourrir tout le monde avec deux pizzas. C'est-à-dire que 6 personnes maximum, ou voilà, on va dire 8 si vraiment les personnes ont un petit appétit. Hein. Mais du coup...
C'est pas mal ça pour se rappeler.
Voilà. Nous, on a cette règle-là. On dit souvent, dans une réunion, il faut zéro retard, il faut un seul écran, il faut ensuite avoir 2 pizzas et 30 minutes maximum.
Bon voilà, ça c'est déjà pas mal pour vous aider, vous qui nous écoutez, à organiser vos prochaines réunions.
À afficher portes de réunion.
Alors dans ce livre qui, au passage, est très facile à lire, vous respectez votre engagement hein, de ne pas faire perdre du temps au lecteur, et déjà bravo pour ça.
Ouais.
Vous parlez beaucoup de productivité, hein, et d'ailleurs c'est un terme qu'on entend partout aujourd'hui, un peu à tort et à travers je trouve. À mon sens, la productivité c'est pas forcément synonyme d'efficacité, et bien au contraire. On cherche à rendre les gens plus productifs, à ce qu'ils fassent un maximum de tâches dans une journée. Mais pour moi, ce terme en fait, devrait être réservé aux machines et aux robots, et surtout pas à nous, les êtres humains. Je pense qu'on doit plutôt chercher l'efficacité dans ce qu'on fait. Et la nuance, elle est très importante entre les deux.
Ouais, oui, vous avez raison. Je pense qu'en effet, on n'est pas des machines. Et que, productivité, en effet, ça peut avoir ça peut donner cette impression. Alors qu'au contraire, le message c'est le contraire, c'est justement il faut pas pressuriser les humains, mais au contraire leur donner le loisir de pouvoir s'exprimer, d'avoir du temps libre. Et c'est ça qui est clé, parce que le temps libre aujourd'hui c'est ça qui est le plus précieux. C'est ça qu'on doit chérir aujourd'hui.
En fait, la grande différence pour moi, selon moi, entre la productivité et l'efficacité, pour l'avoir vécu à titre personnel, c'est vrai, quand je me suis lancée en tant que freelance il y a 5 ans, je cherchais en effet à être productive. Donc j'avais des to-do list à rallonge et vraiment je faisais énormément de choses dans mes journées. À la fin de la journée, je me sentais lessivée, fatiguée, physiquement et moralement. Mais je me disais, waouh, j'ai fait tout ça, c'est génial. Sauf que je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait que je focalise mon attention sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? Ce sont les tâches qui nous apportent des résultats. Alors après, les résultats, on a différents indicateurs. Et à partir du moment où on arrive à obtenir ces résultats, pour moi, là, on est vraiment efficace. Et finalement, c'est la loi de Pareto. 20% de ce qu'on fait apporte 80% de résultats. Être productif pour seulement dire on a fait plein de choses dans la journée, ça ne sert strictement à rien.
Tout à fait. Nous, on a ce qu'on appelle la règle des 3 tâches, hein, qu'on a repris d'un bouquin qui s'appelle Getting Things Done.
Et c'est ce que j'applique aussi personnellement grâce à ce bouquin, justement.
Et que, honnêtement, c'était énorme. Je pense que presque un entrepreneur sur 3 qu'on a interrogé nous a dit l'appliquer. Donc c'est.
Et vous pouvez expliquer justement ce que c'est.
Alors,
cette
c'est juste
règle.
Commencer sa journée en disant quelles sont les 3 tâches qui feront qu'à la fin de la journée, je serai satisfait de ma journée.
Exactement.
Et donc, une fois, alors, c'est pas juste, ensuite, c'est pas juste les avoir identifiés, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut en quelque sorte, prendre rendez-vous avec vous-même dans la journée en allouant des créneaux pour faire ces tâches. Par exemple, vous allez mettre 3 fois une heure. Et le fait d'allouer des créneaux, hein, de timeboxer ces tâches-là, en fait, ça va faire en sorte que les gens ne pourront pas vous coller des rendez-vous, des réunions à ce moment-là. Et donc, Et donc, vous allez vraiment pouvoir les mener à bien et passer du temps avec vous-même.
Bien sûr, et puis de toute façon, moi je le répète souvent, c'est pas parce qu'on travaille 7 ou 8 heures d'affilée qu'on travaille bien, qu'on est efficace, pas du tout. Travailler moins, 2, 3 heures dans la journée, exactement, et vraiment finir tout ce qu'on a à faire et être ultra efficace.
Exactement, c'est souvent parce que la remarque que les gens nous font sur Loom, les gens s'imaginent que toujours l'entrepreneuriat, ça doit forcément être horrible, qu'on doit avoir des horaires à rallonge.
Et puis qu'on doit souffrir.
C'est pas du tout le cas. Je veux dire, nous, on n'est pas fatigués. On finit, et voilà, nous, à 18h, la journée, en gros, ouais, ça doit être fini, quoi. Parce qu'on a une vie à côté, on a des projets, et puis c'est une banalité, mais c'est un marathon, et donc il faut tenir sur le long terme. Donc, ouais, il n'y a pas besoin de bosser autant, et au contraire.
Mais ça, c'est difficile à faire comprendre aux gens.
Alors, c'est difficile. Du coup, moi, ce que j'essaie de parfois pour... Parce qu'en effet, il y a une forme de pression sociale, surtout en France. Sur le fait de travailler beaucoup. Donc j'essaie parfois de parler d'une double perspective aux gens. La perspective d'abord historique, qui est, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, hein, que la valeur travail soit autant mise en avant. Hein, ça date, on va dire, la révolution industrielle du 19e. Avant, je prends l'Antiquité par exemple, on valorisait l'otium, qui est une forme de loisir créatif, la méditation, ce n'était pas le travail, au contraire. Si je prends le Moyen-Âge, même on s'imagine que le Moyen-Âge, tout le monde travaillait énormément. Non, par exemple, pour les jours... On ne pouvait pas travailler à la lueur de la bougie, c'était interdit. Donc déjà, vous pouvez enlever la moitié du temps. Il y avait énormément de jours fériés et jours religieux. Donc il y a déjà cette perspective historique qui permet de se remettre en question. C'est-à-dire que ouais, ça n'a pas toujours été comme ça.
Ouais.
Et puis la perspective, bien sûr, géographique. Hein. Quiconque a passé un peu de temps, par exemple, en Europe du Nord, voit que ce n'est pas du tout la même chose, la même mentalité.
Ah non, mais là-bas, faire des heures sup, c'est super mal vu.
C'est très mal vu. C'est un signe de désorganisation.
Exactement. Et puis, prendre du temps pour sa famille et sa vie privée,
exactement,
en fait.
Exactement.
Que ce soit au Danemark, en Finlande, même en Allemagne.
C'est évident. Ouais. C'est évident. Je crois qu'il y a un chiffre, je crois que c'est aux Pays-Bas, c'est 50% des gens sont à temps partiel. Alors, c'est peut-être à temps partiel 4 jours sur 5, mais ça donne quand même une idée. Et c'est du partiel choisi, quoi. Donc,
et même le télétravail là-bas, il est beaucoup plus accepté.
Exactement.
Donc, c'est dingue de se dire que c'est des pays qui sont pas très loin de la France. Enfin, je veux dire, 2-3 heures,
et
ça
des
va.
Pays, et des pays qui sont aussi développés que le nôtre, voire plus développés. Donc, ça donne à réfléchir.
C'est clair. Il faut peut-être s'en inspirer et se poser les bonnes questions. Mais en tout cas, voilà, c'est compliqué quand même à intégrer, j'ai l'impression, dans notre société aujourd'hui. Et même Tim Ferriss a eu des soucis avec son employeur, parce qu'il raconte une anecdote justement où il dit que lorsqu'il travaillait comme prospecteur, en fait, il faisait en 2 heures, juste en identifiant en fait ses peak performance, les moments où il était beaucoup plus productif et efficace justement, parce que les autres collègues pouvaient faire en 8 heures.
Ouais.
Et il s'est fait virer pour ça. C'est incroyable.
Ouais. C'est là qu'on voit que le rôle du manager est essentiel et on doit avoir un rôle d'exemplarité, quoi. C'est-à-dire qu'on doit vraiment... Enfin, si en effet le manager il part à 20h du boulot, personne partira avant.
Hein. Ouais.
Donc c'est le manager qui doit vraiment inspirer les gens, dire c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Au contraire, c'est important de terminer tôt.
Le manager doit vraiment montrer l'exemple et être un vrai modèle. C'est clair, ça doit venir d'en haut.
Exactement.
Bon, en tout cas, si on crée des déclics pour les personnes qui nous écoutent, c'est déjà pas mal.
Exactement.
C'est notre objectif. Dans le livre, vous partagez une technique que moi, j'ai mis en place depuis de nombreuses années, mais qui surprend toujours un peu les gens.
Mmh.
Bah, c'est le fait de consulter ma boîte mail uniquement 2 fois par jour.
Mmh.
Uniquement 2 fois par jour, à midi et en fin de journée vers 18h. Et je pense que c'est super important d'en parler, parce que les gens passent leur vie, en fait, à checker leur boîte mail. D'ailleurs, j'aimerais savoir, vous, Guillaume, quelle est la dernière fois où vous avez consulté votre boîte mail et vraiment, je veux une réponse honnête et franche.
C'est ça. Moi, ma boîte mail personnelle, je la consulte 1 fois par jour. Donc, le matin.
Personnel, c'est quoi, personnel?
C'est ma boîte gmail.com. Voilà. Et ma boîte professionnelle, qui est la boîte loom.fr, je la traite 2 fois par jour. Et donc, comme vous. Pourquoi je fais ça, et vous en connaissez la raison, hein, mais c'est que l'idée, c'est que quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire que quand on envoie un email, au bout de combien de temps on attend une réponse? On n'attend jamais une réponse dans l'heure, quoi. A priori, on accepte qu'on puisse avoir une réponse en moyenne en une demi-journée, quoi. C'est un délai largement acceptable. Donc, en effet, le corollaire de ça, c'est que si on est en face, on a tout à fait le droit de regarder sa boîte mail que 2 fois par jour. Et ce qui est, je pense, aussi essentiel, vous dites aujourd'hui, les gens, ils sont rivés sur la boîte mail. Le problème, c'est que la boîte mail, ce n'est pas un outil de gestion du temps. Ce qui est un outil de gestion du temps, c'est un agenda, c'est un calendrier. Donc, si on devait vraiment avoir quelque chose qu'on consultait en permanence, c'est les créneaux qu'on a alloués sur son agenda.
Mmh.
Autant, pour le coup, je pense qu'il faut avoir... avoir une consultation réduite de sa boîte mail. Par contre, ouais, l'agenda, s'il y a un vrai agenda qui est bien managé, on doit avoir pas mal de créneaux au final, mais pas des créneaux qui sont des réunions avec les autres, des rendez-vous avec les autres, mais qui sont des time box du temps qu'on doit nous passer sur nos projets personnels.
Et encore une fois, le fait de checker ses mails à chaque notification, ça veut dire en fait finalement que votre journée et votre temps est géré par les autres. Et la raison pour laquelle moi je commence à checker mes mails qu'à partir de midi, pas avant, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que déjà se réveiller et regarder sa boîte mail, franchement c'est chaud, faut vraiment arrêter de faire ça. Je crois qu'on a quand même d'autres manières beaucoup plus sympathiques de commencer sa journée, n'est-ce pas ? De ne pas donner son temps aux autres, mais plutôt à soi-même, ça c'est très important. Mais aussi parce que même si je regarde le mail et que j'y réponds pas, il y en a beaucoup qui vont penser ça, mais moi je regarde et je réponds pas. Ouais, mais ça reste dans un coin de ma tête. Et je ne fais qu'y penser en fait finalement. Et du coup, c'est des petits parasites comme ça qui nous bouffent un peu l'esprit et c'est vraiment contre-productif. Donc moi, je commence à midi, après je check en fin de journée et franchement, ça fonctionne super bien. Il n'y a aucun souci. Comme vous dites, les gens peuvent attendre une demi-journée. Il n'y a pas mort d'homme en fait.
Non.
Se déculpabiliser par rapport à ça.
Ce que j'appelle le nuage noir de pensée qui nous plonge. Ouais. Et c'est pire si on regarde un email le dimanche après-midi. C'est-à-dire qu'on va ouvrir une tâche non achevée dans sa tête. Bien sûr, on n'a pas les outils ou l'opportunité pour y répondre, pour résoudre le problème. Donc ça nous pollue juste le week-end, alors qu'on aurait pu regarder le lundi matin tranquillement.
Mais carrément. Bon, on évite alors le mail le dimanche après-midi.
On évite.
Alors on le sait, vous avez énuméré plein de choses qui aident justement à gagner plus de temps dans la journée. Il y a beaucoup de monde aussi qui parle de déléguer les tâches. Tim Ferriss en parle dans son livre La semaine de 4 heures. Olivier Roland aussi, dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et vous aussi, Guillaume, dans La 25e heure. Alors, c'est bien beau sur le papier, mais la réalité, c'est quoi ? C'est que ça coûte de l'argent finalement de déléguer et d'avoir des personnes pour faire notre travail à notre place. Donc, comment on fait lorsqu'on est freelance ou entrepreneur, qu'on vient de se lancer et qu'on n'a pas une thune ?
Et alors là, je vais aller un peu contre ce que je dis, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr déléguer, mais il y a aussi parfois une manière intéressante de faire. C'est-à-dire que nous, typiquement, là, on devait par exemple gérer notre service client sur Loom, où il y a forcément pas mal de demandes, des échanges, des retours, des questions, énormément de choses. Et le fait justement de ne pas déléguer, on aurait pu bien sûr recruter un stagiaire comme font plein de gens, mais je pense qu'on s'est dit, déjà c'est pas très intéressant comme boulot de stagiaire que de faire que ça, de gérer des échanges, des retours. Mais surtout on s'est dit, on va essayer de trouver une manière différente de faire. En fait, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on s'est posé concrètement, on a dit, comment toutes ces tâches qui sont finalement des tâches pas très intéressantes et pas très haute valeur ajoutée, comment on va faire pour les automatiser ? En fait, on a mis en place tout un système interne d'automatisation aujourd'hui de tous nos échanges, de tous nos retours, qui finalement nous donne un gros avantage par rapport à plein de gens.
Se présente comment le système ?
Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont encore dans les startups, il faut toujours avoir ce qu'on appelle un CTO, un directeur informatique. Nous, on a fait le choix de pas en avoir parce que je pense qu'on est à un moment, alors peut-être que ça concerne pas tous les types d'activités, mais je pense qu'on est à un moment quand même charnière où aujourd'hui les outils, ce qu'on appelle les SaaS, les logiciels en ligne, ont atteint un tel niveau de maturité qui sont en général extrêmement performants et qu'il suffit de les faire dialoguer entre eux pour se créer un système informatique très pertinent. Et donc nous, ce qu'on a fait, on a aujourd'hui plein d'outils géniaux que vous connaissez tous, depuis Shopify pour faire du e-commerce jusqu'à Typeform pour faire des formulaires, et on essaie juste de les faire dialoguer entre eux. Alors il y a plein d'outils pour ça, il y a un outil qui est assez connu qui s'appelle Zapier, peut-être que vous connaissez, qui permet de dialoguer les tâches entre elles. Nous on a un autre que je trouve un peu plus puissant.
Vous parlez de tout ça d'ailleurs dans le
livre. Ouais, voilà, on en parle. Nous on a un autre dont on ne parle pas dans le livre parce qu'il est assez récent, qui s'appelle Integromat, qui est un peu plus puissant, et aujourd'hui l'ensemble de notre système back-office ou back-end est basé là-dessus, et il est extrêmement performant et extrêmement flexible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux changer quelque chose, ça me prend à peu près une minute et j'ai pas besoin de briefer quelqu'un à l'informatique pour faire ce changement-là. Et donc, pour revenir, du coup, d'où la discussion est partie, finalement, là, c'est le fait de se dire « je vais pas déléguer, je vais faire » qui nous a fait changer et réfléchir à ça. Et je dirais aussi autre chose, toujours pour connaître sur les services clients, il y a des choses qu'il ne faut pas déléguer. Et ce qu'il ne faut pas déléguer, c'est le fait d'être en contact frontal avec ses clients.
Oui, c'est-à-dire que ça, je suis d'accord.
Si demain un client vous dit, je sais pas, ce puliboulouche. Si c'est le stagiaire SAV qui vous dit « Ah, tu sais qu'il y a 1% des clients qui nous ont monté avec le pull boulouché, vous en foutez. » Par contre, si vous-même, vous avez répondu à 10 personnes qui vous ont, qui vous ont montré une photo du pull et qui ont dit «
Ça
boulouche »,
ça fait toute la différence.
Je veux dire que vous faites quelque chose, vous appelez votre fournisseur et vous... Voilà. Donc,
l'expérience n'est pas la même déjà, parce qu'on se sent beaucoup plus considéré quand on est client.
Exactement.
Et puis oui, on a connaissance des vrais problèmes et du coup, on peut vraiment agir pour solutionner ces problèmes.
C'est totalement, ouais. Après, ouais, voilà.
On est juste des
humains et on a besoin de ça, quoi. Et c'est l'interaction avec les autres qui nous fait changer.
Ouais. Donc, si j'ai bien compris, finalement, vous avez trouvé comme solution de déléguer à des machines plutôt qu'à des êtres humains, c'est ça ?
Alors, sur les tâches qui sont à faible valeur ajoutée et pas intéressantes pour aucune personne, oui.
Voilà. Et en plus, c'est moins cher, j'imagine.
Ouais, exact. Et après, oui, j'imagine. Oui, sur le long terme, forcément, c'est moins cher. Et c'est ça. Et donc, ça, sur une partie. Puis après, sur la partie, justement, des choses à haute valeur ajoutée où il y a besoin des humains, Bah là, pour l'instant, c'est nous. Et demain, bien sûr, ça sera les gens qu'on va recruter. Mais en tout cas, je pense que... Ouais, je pense qu'aujourd'hui, oui, l'armée de stagiaires dans une entreprise, c'est pas quelque chose qui est efficace et qui est intéressant pour personne, ni pour les managers, ni pour les stagiaires.
En tout cas, c'est super intéressant. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment bien de donner ce genre de solution pour tous les entrepreneurs et les freelances qui se lancent, mais pas que, les startups et toutes les personnes qui ont envie justement de déléguer autrement. Et je crois qu'on tend vers ça. Enfin, on a même des assistantes virtuelles aujourd'hui et assistants. Enfin, voilà, c'est l'avenir, quoi.
Ouais, exactement. On peut aller, on peut faire aujourd'hui
beaucoup de choses.
Ouais, vraiment, vraiment plein de choses.
Et avoir des résultats très professionnels, je trouve.
Ah oui, au contraire. Enfin, voilà, au contraire. C'est juste, voilà, faut juste être vigilant sur la distinction qu'il faut faire entre ce qui est automatisable et ce qui ne l'est pas. Il y en a qui vont trop loin dans l'automatisation, et donc faut être vigilant là-dessus.
Ouais. Alors, dans le livre, vous me conseillez de commencer par travailler sur les tâches passives.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre les tâches passives et les tâches actives ?
Alors, si vous balayez votre liste de tâches que vous avez à faire dans la journée, il y a des choses qui dépendent de vous, des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc, par exemple, on va dire, tiens, briefer un graphiste pour faire une illustration, par exemple, ça ne dépend pas de vous. Et du coup, ce qui est essentiel de faire, alors ça paraît évident, mais en fait, dans la réalité des choses, très peu de gens le font. Il faut commencer par tout ce qui ne dépend pas de vous. Voilà, pour une raison évidente, c'est que vous ne maîtrisez pas le temps que ça va prendre. Donc, faut le commencer le plus tôt possible.
Mais ça semble contre-intuitif quand on le dit comme ça.
Voilà. Mais en fait, il faut... parce que en fait, tout le monde a tendance à faire, parce que c'est sa zone de confort. On préfère faire ce qui, dépend de nous parce qu'on est à l'aise là-dessus, parce qu'on ne se confronte pas à l'autre. Alors qu'il faut se confronter tout de suite à l'autre, c'est un peu plus inconfortable, mais en fait, c'est ça qui fait la différence. Et moi, ça m'est arrivé vraiment de nombreuses fois de voir des gens qui m'ont dit « j'ai tout fait ». Ah oui, j'ai juste oublié de je sais pas, lancer cette tâche administrative, oui, mais qui va prendre 2 semaines. Donc tout le projet est décalé de temps, ce qui est un peu absurde.
Et l'avantage considérable de commencer par les tâches passives, selon moi, c'est que vous preniez l'exemple de briefer par un designer.
Mmh.
Alors, vous commencez par le briefer, par exemple, le matin. Voilà, vous arrivez au bureau, vous lui envoyez le mail, le brief, etc. Petit coup de fil pour tout confirmer. Puis, en fait, pendant la journée, quand vous faites vos tâches actives, lui, il travaille sur le projet.
Ouais, exactement.
Et donc, à la fin, là, vous êtes vraiment efficace parce que vous avez les résultats non seulement de votre propre travail fourni, mais en plus du travail que vous avez confié au designer plus tôt dans la journée.
Exactement. Paralysation des tâches.
Exactement. Donc ça... On commence par les tâches passives.
Exactement.
Alors, on se trouve actuellement à Station F, qui, je le rappelle, est le plus grand campus de start-up au monde. Mais la dernière fois que j'ai réalisé une interview ici avec un entrepreneur, eh bien, figurez-vous qu'il m'a confié avoir du mal à quitter le campus. Et il avait tendance à rester des journées et des nuits entières à travailler ici. Il m'a même dit que parfois, ça lui arrivait de dormir ici. Donc c'est un peu, vous savez, la technique Google, où on vous apporte tout ce dont vous avez besoin sur place pour vous inciter à rester toujours plus longtemps. Mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire si on veut préserver sa santé mentale et physique. Vous en pensez quoi de ça ?
Je suis contre. je pense que clairement, ponctuellement, on peut avoir besoin de le faire. Sur long terme, c'est clairement un handicap parce que tout ce travail trop intense qu'on le fait, on le paye toujours... à un moment donné.
Franchement, il avait l'air extrêmement fatigué en plus.
J'imagine.
Ah ouais, et moi, dans un coin de ma tête, je me disais, c'est génial ce qu'il fait. J'adore son projet. Mais enfin, à quel prix ? Prix de sa santé, il faut se remettre en question par rapport à ça.
Il faut. Ou alors après, c'est pas des techniques, hein, c'est de sonner des contraintes. C'est-à-dire, tout simplement, pas, le soir, je vais réserver juste, je sais pas moi, un théâtre où je vais aller au cinéma, où j'ai une séance de sport. Là, j'ai pas le choix et je dois sortir, j'ai une contrainte. Ou juste voir des amis, quoi. Après, moi, j'ai la... je vais pas dire que c'est enfin la contrainte ultime entre guillemets qui est enfin c'est
votre famille et votre enfant,
c'est la famille, quoi. Ouais, c'est-à-dire que bien sûr
c'est un cadre, en fait, c'est pas une contrainte, mais c'est plutôt un cadre.
Et du coup c'est non seulement voilà, donc c'est le bonheur de à chaque fois de quitter son travail, mais voilà, on n'a pas le choix parce que de toute façon il faut aller à 18h chercher son enfant à la sortie de la crèche ou de l'école, et donc et donc quelque part le fait d'avoir une famille permet aussi d'avoir une vie forcément plus équilibrée, et ça c'est ça qui est génial.
Ouais, le plus important c'est d'avoir un cadre, qu'il soit la famille ou autre chose, et de vraiment planifier des activités externes. Exactement. Et comme ça on se dit ok, entre guillemets j'ai plus le choix, parce que j'ai planifié, j'ai réservé, voilà, j'ai mon cours de yoga par exemple à 18h, bon bah je sors du campus en fait, et je fais autre chose.
Bien sûr.
S'obliger vraiment à faire autre chose. Parce que moi, il y a aussi un autre truc avec lequel j'ai jamais vraiment été d'accord, c'est le fait de considérer l'entreprise comme une grande famille.
Ouais.
Et j'ai souvent assisté à des événements où les DG, les managers utilisent ce terme pour parler de leurs équipes en disant « Oui, nous ici, on est une grande famille. » Et à chaque fois, je me dis « Oh my God, en fait, ils vont y laisser leur vraie famille. » C'est un piège de penser comme ça. Sauf que voilà, j'ai l'impression que si en fait, on n'adhère pas à cette vision des choses, bah, on est mis de côté. Parce qu'on est vu comme étant moins impliqué, ce qui est totalement faux, évidemment. Donc, comment on doit s'y prendre? Quelle attitude on peut avoir face à ça?
Donner clairement aujourd'hui, dès le départ, le cadre de son implication dans une entreprise et fixer des règles. Et je pense que personne n'a rien à perdre à fixer des règles en disant « je vais aller chercher mon enfant tous les soirs à 18h » et c'est comme ça. Mais en effet, ça doit être défini en amont. Je pense qu'avant même de signer ou de s'engager dans une entreprise.
C'est important ça, parce que si on le fait après, bah en fait, ce qui peut se passer, c'est que le responsable va se dire « Ok, il m'a bien eu en fait. »
Ouais, voilà. Exactement.
Donc il y a un petit sentiment de trahison comme ça qu'il faut quand même éviter et en parler le plus tôt possible. Mais vous avez raison, c'est pas parce qu'on est salarié qu'on peut pas imposer un cadre.
Totalement. Ouais, ça va dans les deux sens, c'est clair.
Complètement. Alors dans le chapitre 3, qui est le chapitre accéléré, le dernier chapitre, vous partagez les habitudes quotidiennes de grands artistes comme Beethoven, Le Corbusier ou encore Victor Hugo. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment ils organisaient leur journée. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne passaient pas tout leur temps à travailler. Pas du tout, au contraire, ils avaient des plages horaires très précises pour ça. Et puis ils profitaient du reste de la journée pour faire autre chose, on le disait tout à l'heure. Des activités comme une promenade, de la lecture ou même des repas entre amis. D'ailleurs, manger entre amis en famille, c'était très important pour eux.
C'était
des moments très conviviaux. Et la grande leçon en fait, qu'on peut en tirer de ça, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à travailler plus, mais plutôt à travailler intelligemment. Et je sais que vous intervenez dans les entreprises, alors comment ça se passe vraiment sur le terrain? Est-ce que c'est quelque chose que les managers, les employés arrivent à intégrer, ou est-ce que tout le monde est encore à côté de la plaque?
Aujourd'hui, je crois que ce qu'on disait en France, les gens sont encore pas mal à côté de la plaque, puisque ça a été comme ça pendant des années et des décennies. On a été très fort dans un sens et on commence tout juste à s'en rendre compte. Et moi, ce que je trouve le plus positif déjà, c'est qu'énormément d'entreprises nous sollicitent pour intervenir.
C'est vrai, il y en a beaucoup ?
Ouais, énormément, parce qu'elles savent que c'est le problème. Aujourd'hui, si vous prenez... Alors, je sais pas, la stat est pas juste au pourcentage près, mais c'est en gros que 90% des millénials, comme on dit, estiment que c'est important d'avoir un équilibre vie professionnelle vie privée.
Donc ça veut dire que eux, ils ont conscience de ça.
Et la réalité, c'est que 10% sont 7% sont c'est ça, 7% seulement sont satisfaits.
Donc
bien sûr aujourd'hui, même de façon ultra rationnelle économiquement, les grosses entreprises voient que c'est un problème parce que c'est un problème pour leur recrutement et que les gens ils vont privilégier aujourd'hui des boulots où ils peuvent avoir plus d'équilibre, donc ils n'ont pas le choix, ils doivent changer, parce qu'aujourd'hui le rapport de force est un petit peu inversé entre la grosse entreprise et le salarié, et donc le salarié peut d'une certaine manière dicter ses conditions. Donc moi je pense qu'il y a un déclic, et c'est marrant parce que quand vous prenez tout le monde individuellement, tout le monde est d'accord et tout le monde dit c'est la responsabilité de la structure ou du système.
C'est vrai.
Intéressant. Si tout le monde se mettait d'accord autour d'une table, on pourrait peut-être résoudre le problème.
Personne ne veut se responsabiliser, en fait.
Exactement. Tout le monde dit que c'est l'autre.
Donc en fait, vous faites ça en parallèle de Loom, hein, vous intervenez beaucoup dans les entreprises. Mm-hmm. Et finalement, c'est vrai, ce livre, La 25e heure, on peut dire que c'est devenu un vrai business, puisque vous intervenez régulièrement, vous l'avez dit, pour former les salariés. Et j'ai vu sur le site que vous facturez ça 4 500 € pour les interventions qui durent entre 1 et 1 h 30. Est-ce que c'est une affaire qui tourne bien pour vous ?
Honnêtement, là-dessus, oui. C'est, alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est un chiffre classique. Hein, c'est comme ça qu'on rémunère à peu près, c'est le montant qu'on rémunère un conférencier.
Pour les entreprises, c'est pas beaucoup. Hein.
Voilà,
4 500 €.
Exactement.
Je pense qu'ils peuvent investir ça quand même pour le bien-être des salariés.
Ouais, ouais.
Hein.
Et du coup, moi, à titre personnel, oui, j'en fais de temps en temps, parce que c'est ça qui me permet de ne pas me rémunérer aujourd'hui sur mon projet Loom. Il y a quelque part où je me dis, bah, j'ai un projet qui tourne, voilà, j'utilise moi l'argent que je peux gagner grâce à ce projet pour faire quelque chose qui a du sens pour les humains et pour la planète aussi.
C'est intéressant, ça.
Donc c'est comme ça que je le vois, voilà, aujourd'hui, ouais, quelque part je me dis, ouais, je préfère prendre, voilà, sur un projet qui tourne pour essayer de me donner le plus de, ouais, avoir le moins de lest possible pour le projet Loom.
Donc c'est intéressant finalement parce que vous arrivez à générer de l'argent à côté de Loom pour pouvoir subvenir à vos besoins, à votre vie et pouvoir développer Loom. Et finalement,
money.
Le livre, c'est votre muse.
Ouais, c'est d'une certaine manière, oui, c'est quand, voilà, quand je parlais du matelas financier qui permet de faire des choses au tout début de l'interview, qui permet de faire des choses, de prendre des risques, ouais, c'est typiquement ça, quoi. C'est vrai que ça permet de prendre des risques ailleurs.
Et c'est vrai qu'on n'entend pas assez souvent, je trouve. On dit souvent aux gens de prendre des risques. Voilà, on n'a qu'une vie, il faut faire ce qu'on aime, il faut prendre des risques et tout. Mais on oublie le côté financier. Prendre des risques en ayant que dalle dans le compte en banque, c'est quand même un risque un peu idiot.
Ouais.
Donc il faut prendre des risques, mais mesurés. Et se dire, OK, j'ai peut-être 6 mois de budget, comme vous dites, de matelas financier, qui pourrait me permettre d'avancer sereinement.
C'est là
qu'on donne le meilleur de soi-même, finalement.
Exactement. Ouais, je pense que la sécurité est un des premiers besoins humains, surtout quand on a une famille. Donc, c'est important.
En tout cas, merci beaucoup, Guillaume Declercq, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Mmh. Est-ce que vous êtes prêt ?
Allez, c'est parti.
C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ?
Je dis à ma fille de pas venir me réveiller.
Où êtes-vous allé récemment pour votre dernier voyage à l'étranger ?
Je suis allé au Portugal.
Quel est le dernier livre que vous avez lu ?
Et le monde devint silencieux, ou comment l'agrochimie a détruit nos insectes.
Quelle est votre plus grande peur ?
Ma plus grande peur, m'ennuyer.
Vous dormez combien d'heures par nuit ?
8.
Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ?
Trop de café.
Et l'habitude qui a changé votre vie ?
Mettre mon réveil un peu plus tôt le matin.
Selon vous, quel est le meilleur endroit pour travailler à Paris ?
Un café le moment où Paris s'éveille.
Quel animal vous représente le mieux ?
Un animal qui construit, un castor. C'est pas très glamour, mais un castor.
Quelle application utilisez-vous le plus ?
Pocket, pour sauvegarder tous les articles que j'ai pas le temps de lire.
Quel est votre film ou documentaire préféré ?
Chef Table, avec l'épisode avec Francis Malman.
Quel livre offririez-vous en premier ?
L'obstacle et le chemin de Ryan Holloway sur la philosophie stoïcienne.
Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ?
Les gens qui tapent à deux doigts sur un clavier.
Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ?
Qu'il faut beaucoup moins consommer qu'avant.
Si vous disposiez de 100 € et pas 1 € de plus, dans quoi les investiriez-vous ?
Un vélo d'occasion.
Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain ?
Le fait de faire un feedback négatif à quelqu'un.
De quel luxe vous ne pourriez pas vous passer ?
Avoir un petit balcon comme j'ai à Paris.
Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ?
Si t'as une mauvaise journée, prends un whisky le soir et tout ira mieux le lendemain matin.
Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ?
Je lis 3 pages et je laisse tomber mon livre.
Merci beaucoup Guillaume Declercq d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. J'aimerais juste revenir sur un point. Alors, vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, jamais ?
Je réponds à quelques messages sur LinkedIn, pour être tout à fait honnête.
D'accord, c'est la seule chose que vous faites.
Mais je n'ai pas ni Facebook ni Instagram.
Bon bah c'est très bien, on est pareil, je me suis retirée des réseaux il y a très récemment et ça fait un bien fou.
Ça fait du bien.
En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir abordé des sujets aussi importants que la gestion du temps, la productivité, et je suis intimement convaincue qu'on devrait enseigner ça dès le plus jeune âge dans toutes les écoles du monde. On est d'accord, hein, Guillaume?
On est d'accord.
Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? Sur les réseaux, c'est ça?
Non, justement pas. Essayez de m'envoyer un message sur LinkedIn. Sinon, envoyez-moi un message à guillaume@loom.fr.
Parfait. De toute façon, moi, je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore, Guillaume Declercq. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
Merci beaucoup.
Alors, on a beaucoup parlé d'organisation, de productivité et d'efficacité. Très bien. Mais pour moi, tout ça passe avant tout par notre capacité à gérer notre ressource la plus précieuse, le temps. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que nous devrions tous apprendre à gérer correctement notre temps. Et comme on ne le fait ni à l'école, ni en entreprise, eh bien on est forcé de trouver des solutions par soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lu énormément de livres, j'ai suivi moi-même des formations, j'ai assisté à des conférences, et puis surtout, j'ai expérimenté pas mal de choses, pour au final arriver à trouver le parfait équilibre. Grâce à tous les changements que j'ai mis en place, j'ai réussi à libérer du temps, un temps précieux, pour quitter mon job, lancer mon business, créer ce podcast que vous êtes en train d'écouter et voyager aux quatre coins du monde. Du coup, vous avez été extrêmement nombreux à me demander de partager ma méthode personnelle. Eh bien, c'est ce que j'ai fait dans cette masterclass « Gestion du temps ». J'aimerais aussi souligner le fait que j'ai choisi un format court pour aller à l'essentiel et éviter justement de vous faire perdre votre temps. Alors, vous trouverez toutes les informations sur lemanalshow.com/school. Il suffit simplement d'aller sur le site, de vous inscrire en ligne et vous accéder directement à la masterclass. J'ai également inséré un petit bonus que je vous laisserai découvrir. J'espère vraiment que ce travail que j'ai réalisé pour cette masterclass va vous aider concrètement à reprendre la main sur votre temps et réaliser enfin tous vos objectifs. Sachez que je vous mets également toutes les informations nécessaires dans la description de ce podcast. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Guillaume Declercq. Conseil numéro 1, ne cherchez plus à être productif, cherchez plutôt à être efficace. On entend beaucoup parler de productivité, mais pour moi ce n'est pas toujours synonyme d'efficacité. Chercher à combler sans cesse nos journées avec des to-do listes à rallonge, ça peut nous donner le sentiment de faire plein de choses, mais la réalité, c'est qu'on perd beaucoup de temps à brasser du vent. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre de tâches accomplies, mais plutôt le résultat concret qu'on a obtenu. Si vous avez l'impression d'avoir toujours des tonnes de choses à faire, de ne plus avoir une minute à vous, alors vous devriez peut-être revoir vos priorités, car se surcharger de travail n'est pas du tout la solution. Pour être productif et surtout efficace, vous devez vous concentrer sur les tâches qui vous apportent le maximum de résultats. C'est la fameuse loi de Pareto. 20% de vos efforts vous apportent 80% de résultats. Et bien c'est sur ça que vous devez concentrer vos efforts. Alors je vous pose la question. Quelles sont les choses essentielles qui font réellement tourner votre business? Les choses qui vous permettent d'atteindre vos objectifs et d'avoir de vrais résultats? Il est temps de changer votre façon de voir les choses et de vous concentrer enfin sur ce qui vous rend vraiment efficace. Conseil numéro 2, construisez-vous un matelas financier. C'est un conseil d'autant plus important qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent tout plaquer pour lancer un business. Ok, mais avez-vous pensé à mettre un peu d'argent de côté pour vous assurer une petite sécurité financière durant les premiers mois ? C'est important de se poser la question avant de poser sa dème. Les problèmes d'argent sont la source de beaucoup d'angoisse, de stress et d'anxiété. Si vous n'avez pas de quoi payer vos factures, vous ne pourrez pas vous concentrer suffisamment sur vos projets. Vous serez omnubilé par vos problèmes d'argent et c'est vraiment le pire qui puisse vous arriver. On a tendance à oublier de parler de cet aspect financier qui est pourtant très important. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous constituer au moins 6 mois de ressources financières pour les dépenses basiques. Ça vous laissera le temps de décrocher vos premiers contrats. Sinon, faites comme Guillaume Declercq qui a opté pour la solution du side project. Une fois par mois, il intervient dans une entreprise pour faire du consulting, ce qui lui permet d'avoir une rentrée d'argent régulière. Et en parallèle, il continue de développer sa start-up. Dans tous les cas, il vous faut un matelas financier pour continuer à dormir sur vos deux oreilles. Et enfin, conseil numéro 3, planifier votre temps libre. Dans le livre « La 25e heure », j'ai beaucoup aimé le passage dans lequel on découvre les habitudes quotidiennes de grands artistes comme Beethoven, Le Corbusier ou encore Victor Hugo. Ce qui m'a frappé, c'est l'importance qu'ils accordaient à leur temps libre. Ils planifiaient leurs activités de sorte à sortir de leur bureau ou de leur atelier le plus souvent possible. Ça m'a beaucoup marqué car c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a quelques années et qui a totalement changé ma vie. J'ai compris que non seulement je ne peux pas demander à mon cerveau d'être concentré 8 heures d'affilée, que j'avais besoin de stimuler ma créativité par d'autres moyens que le travail, et qu'en plus, c'était une nécessité pour moi d'avoir une vie personnelle saine et épanouie. Du coup, j'ai revu toute mon organisation. Ça a été un gros chantier au départ pendant quelques jours, avec beaucoup de doutes et de questionnements, mais j'ai réussi à aller au-dessus de tout ça. Et aujourd'hui, je suis totalement convaincue des bienfaits de la méthode que j'ai mise en place. Ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est que les temps de loisirs sont tout aussi importants que les temps de travail. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez appliquer au moins un des nombreux conseils que nous avons partagés avec mon invité pour peut-être devenir un peu moins productif et beaucoup plus efficace. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez me soutenir de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur le site lemanalshow.com. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao !It's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. It's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. It's overnight. Slow.